J'aimerais commencer par une image. J'aime bien faire une petite touche agricole avant de commencer. Et si Elia peut nous montrer l'image numéro 1. J'ai l'impression que ce matin, le gâteau est déjà fait. J'ai juste encore à mettre un peu de décoration dessus. Alors, je ne veux pas me prétendre être la cerise, mais... J'ai juste cette impression quand Isabelle fait son excellent millefeuille, la dernière touche, c'est de faire les lignes de chocolat et de faire la décoration. Et c'est un stress parce que si le tuyau est bouché, ça fait des petites crottes et ça fait... Mais bon, on a chanté que toute peur disparaît, donc la décoration va être jolie. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un haricot qui est en train de germer. Et quand on voit ça, on se dit, ah, la nature est magnifique. Mais en fait, si je me mets à la place du haricot, je suis peut-être comme... ça va peut-être parler à quelqu'un en particulier, mais j'ai l'impression j'ai tout fait ce qu'il faut. Et pourtant, c'est dur. J'ai une tonne de terre sur la tête. Pourtant, je suis mort à moi-même. Enfin, j'ai fait ce qu'il faut et j'ai l'impression quand même que ça, il n'y a rien qui marche. Et si tu peux faire l'image la deuxième. Et donc, le processus continue et c'est toujours la galère, cette vieille peau qui reste accrochée. Et donc je ne veux pas faire plus long les explications parce qu'on veut en parler d'autre chose, mais tu peux mettre la dernière image. Donc nous savons que ça finit comme ça, hein, mais parfois nous sommes dans des moments où c'est dur, et pourtant on a fait ce qu'il faut, mais persévère, parce que la lumière arrive. Voilà, merci Elia. J'aimerais continuer ce matin... la suite du message que j'avais donné en novembre. Donc je vous avais parlé d'un temps de réforme que je vis et des différentes circonstances. Fabrice m'avait conseillé de lire le psaume 23 tous les jours. Enfin, il avait reçu ça du Seigneur. J'ai aussi fait le parcours biblique avec Pierre Kranga à la recherche du Père sur la base de Luc 15, le fils prodigue. Et je sais que d'autres ont commencé à le faire, alors je vous encourage encore. C'est sur YouTube, hein, c'est gratuit et c'est accessible à tous. Donc la dernière fois, j'avais parlé d'intimité avec le Père, d'entrer dans la maison du Père. On l'a chanté ce matin. On a parlé d'intimité avec le Père, de l'amour du Père. Et en fait, dans ces deux textes de Luc 15 et du psaume 23, on parle de la maison. Le Père qui invite le fils prodigue à rentrer dans la maison. Il invite le fils aîné aussi à rentrer dans la maison. Dans le psaume 23, il est dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et je pense, en entendant ce qui a été dit ce matin, donc j'avais dit « je suis entré dans la maison ». Et je pense, en entendant ce qui a été dit, que en fait, j'ai compris combien Dieu m'aimait. On peut le dire comme ça aussi. Donc j'ai raconté mon expérience, je ne vais pas la raconter aujourd'hui, mais j'ai raconté mon expérience à un ami, et il m'a dit, mais tu étais déjà dans la maison. Alors c'est vrai que, d'une certaine manière, j'étais déjà dans la maison. Mais j'ai pu aller dans une autre dimension de gloire. Et j'aimerais lire le verset de 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et en fait, parfois on a un peu peur de dire qu'on a découvert quelque chose de nouveau, parce que ça voudrait dire qu'avant, ben, on ne savait pas. Mais c'est tout à fait normal, parce que Dieu veut nous conduire de gloire en gloire, d'étape en étape, Et c'est normal qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas avant. Alors, d'avoir cette impression d'être dans la maison ou de ne pas être dans la maison, j'aimerais juste dire un peu comment ça se passe. Alors, pour moi, peut-être pas pour vous, mais vous reconnaîtrez peut-être. On est parfois dans des moments, bah, comme ce matin, ou quand on est dans une conférence, on a vraiment l'impression que là, on a senti la présence de Dieu, on a été touché dans notre être intérieur. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé et on est dans la maison, là, c'est sûr. Et parfois, il suffit d'une petite chose et on n'y est plus. Parfois, ça peut être direct dans la voiture en rentrant du culte, un petit malentendu ou quelque chose, et puis on est un peu énervé, et puis voilà, on n'est plus dans la maison, quoi. Et après, on se sent bête et on est gêné par rapport à Dieu. Et puis on fait comme Adam, on se cache. Dans le sens où, ben ouais, on n'est plus digne. Et après, on rentre dans un processus où on fait de nouveau tous nos efforts parce qu'on veut y retourner dans cette maison. Et alors, on fait tous nos efforts et en fait, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et peut-être qu'un jour, ben, il y a de nouveau une conférence où ça se passe, et puis, ah ouais, maintenant c'est bon, là on est... Enfin, quand je me souviens d'Elia qui est rentrée d'un rassemblement de jeunesse en Suisse, mais elle sautait comme une grenouille, et puis elle était vraiment motivée à fond, et quand on vit ça, on se dit, ben là, c'est bon. Et puis, il y a de nouveau quelque chose qui se passe peut-être qu'on a regardé quelque chose qu'on n'aurait pas dû regarder. Peut-être qu'on a prêté l'oreille à une critique et on s'est laissé entraîner. Et puis, on n'y est plus dans la maison. Et puis, rebelote, ben, on se cache de Dieu. Dans le sens où, ben, voilà, il ne doit pas être content. Donc, je ne vais pas me présenter. Et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que quand nous sommes dans la maison et qu'il se passe quelque chose, alors même, ça peut être, par exemple, qu'on a raté quelque chose, on a péché, on a fait du mal. Dans ces moments-là, Jésus nous dit, reste dans la maison. Reste. Sans moi, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien d'aller à l'écart et d'essayer de produire des choses pour revenir dans la maison. À ces moments-là, Jésus dit, reste dans la maison. Surtout, reste. C'est là que tu peux être dans la présence de Dieu et être restauré. Nous avons parlé de pardon déjà ce matin. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. J'avais dit la dernière fois, on ne demande pas pardon pour être pardonné. On demande pardon parce qu'on a été pardonné. Et c'est quand j'ai compris, quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, on demande pardon parce que on sait qu'on est pardonné. C'est pas si je dis les bonnes paroles, si je fais la belle prière, si vraiment je me contris dans tous les sens et Dieu va m'accepter. Non, non. On est déjà pardonné. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la grâce pour entrer dans la maison. Il faut comprendre un peu la grâce. Parce que c'est quand même quelque chose de rentrer dans la maison de Dieu. Et un des problèmes qu'on a, alors là je vais être trop vite. Oui, donc, comprendre la grâce. Alors un jour j'ai entendu un homme parler de son pasteur, mais il n'était pas content. Et en fait son pasteur, c'était pas un chrétien de génération en génération. Il était dans la drogue avant, et puis il a rencontré le Seigneur et il s'est converti. Et il est devenu pasteur. Et ce chrétien, il se plaignait de lui en disant, mais il se rend compte, moi je suis né entre deux pages de Bible, et lui il veut me dire ce que je dois faire. Alors je me dis, mais quelle arrogance! Qu'est-ce que ça a à voir d'être né, enfin pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est né entre deux pages de Bible, c'est que depuis toujours on est dans le bain, on est chrétien quoi. Et lui qui est tout jeune chrétien, et donc ça m'avait choqué, je me suis dit mince, mais ça n'a rien à voir. Et Manuela a déjà lu ce verset le dimanche il y a 15 jours, dans Romains 11, verset 32. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Donc aucun de nous ne peut prétendre, ah ben moi, quand même, ça fait déjà, je connais pas tout le monde de ma généalogie, mais au moins mon grand-père était déjà chrétien, hein, vous vous rendez compte, donc faut pas me la raconter. Hein. Et en fait, Dieu, il calme tout le monde, il dit, de toute façon, tout le monde est dans la désobéissance. Et c'est pour que chacun puisse recevoir sa grâce. Alors j'aimerais lire Luc 15, les trois premiers versets pour commencer. Alors moi je suis malin, j'ai oublié d'emmener une Bible. Alors je vais lire quand Elia va l'afficher. Parce que d'habitude je recopie les textes que je veux lire, mais là c'est trop long. Merci. Ouais. C'est trop long. Donc Luc 15, les versets 1 à 3. C'est la parabole. Jésus, je lis les trois premiers versets pour planter le décor. Mais après, on va parler que de la parabole du fils prodigue. Dès l'aube, non, là, on est dans Marc. Alors, là, on n'est pas au bon endroit. Voilà, donc Luc 15, verset 1. Les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Et alors Jésus commence avec les paraboles, donc déjà de la brebis perdue, de la drachme perdue, et plus loin, du fils prodigue. Donc à partir du verset 11, alors nous voyons ce décor, c'est d'un côté, il y a ces pécheurs, ces gens de mauvaise vie, de l'autre côté, il y a les pharisiens, les hommes de loi, ceux qui connaissent la parole, et Jésus au milieu qui enseigne ses disciples. Et donc il dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui aussi une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau gras que nous, avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui dit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Alors ce matin, on ne va pas aborder tous les personnages de cette parabole, mais j'aimerais juste qu'on parle du Père. Souvent on parle juste du fils prodigue, il était perdu, il est retrouvé. Mais en fait cette parabole nous parle aussi du Père. Nous avons un problème quand on parle de la grâce, c'est que on a l'image d'un Dieu en colère. Et il n'y a pas longtemps, c'était Noël, on a chanté les cantiques de Noël, et j'étais frappé que dans quelques-uns des cantiques de Noël, il est question de la colère de Dieu. Je ne sais pas, vous connaissez Minuit chrétien, et à un moment donné, il est dit que le Fils est venu pour apaiser du Père le courroux. Et donc, on a un peu cette image d'un Dieu en colère, et de temps en temps, on arrive à l'apaiser avec quelques petites louanges et Jésus est venu pour calmer le Père, sinon ça aurait explosé, quoi. Et donc, on est assez mal barré en tant qu'humain en se disant, si Jésus a subi la colère de Dieu, qu'en est-il de nous? Alors, ok, Jésus a pris notre place, mais si Dieu était tellement en colère... Comment ne serait-il pas en colère contre nous? Et en fait, dans cette parabole, on commence par dire que le jeune, le fils cadet, demande sa part d'héritage. Et en fait, normalement, on reçoit un héritage quand le père est mort. Donc, en quelque sorte, il tue le père parce qu'il veut son argent, enfin son bien. Et aujourd'hui, on entend en psychologie, pour pouvoir devenir qui tu es vraiment, pour être dans ta pleine dimension, il faut tuer le père. C'est un langage qu'on peut entendre. Enfin, je l'ai entendu récemment encore. Et ça m'a choqué après cette démarche que j'ai pu vivre. Oui, les parents, c'est des freins, donc vous n'arrivez pas à votre plein potentiel. Alors, on ne va pas les tuer physiquement, mais on va se couper. Et donc, on voit que ce fils a vécu, il est arrivé à son plein potentiel. Il a gardé des cochons et il était en train de mourir de faim. Alors, c'est maintenant pas pour critiquer le fils, mais ce que j'ai vu dans ce texte, je me dis, mais où est la colère? Est-ce que le père, il aurait pu dire à son fils, mais tu te prends pour qui? c'est moi le patron. Et là, je vois aucune colère. Est-ce que vous en voyez ? Le père partage ses biens et il lui donne. Il donne au fils en sachant très bien que, par exemple, il a travaillé toute sa vie pour construire telle et telle chose. Le fils, il va tout vendre et il va claquer tout ça. Est-ce que le père se met en colère ? Non. Quand le père voit le fils revenir, est-ce qu'il est en colère ? Parce qu'il a entendu ce que son fils a vécu, ce qu'il a fait de son argent. Il revient et dit « Et alors, je t'avais bien dit ?» Est-ce que le père se met en colère ? Non, il court. Et en fait, dans les Deutéronomes, alors je ne sais plus exactement quel chapitre, il est question des enfants qui n'obéissent pas. Et le sort qui leur est réservé, c'est la lapidation pour ôter le mal de milieu de toi. Si un fils n'est pas obéissant. Et en fait, pourquoi le père court plein de pitié vers son fils ? Parce qu'il y a aussi les anciens de la ville. Si les anciens attrapent le fils, ils vont juste respecter la loi. Donc est-ce que là, on voit la colère du père ? Non, il n'est pas en colère. Et donc c'est ce que je voulais souligner dans ce texte. Dieu n'est pas en colère contre aucun de nous, quoi que nous ayons fait. Même si nous nous sentons indignes parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, tout simplement, c'est le moment de venir vers le Père. Il t'accueille les bras ouverts. On ne peut pas opposer la grâce et la loi. Parce qu'on dit, ah, mais avant c'était la loi. On a déjà cité avant qu'on est sauvé par grâce. On ne peut pas opposer la loi et la grâce parce que la loi, en fait, nous révèle notre état. La loi nous enseigne sur notre état d'humain et sur le péché aussi qui est en nous. Par contre, on doit opposer la grâce et le légalisme. Et le légalisme, c'est quand on pense que d'observer la loi nous permet de nous sauver. Et parfois, alors c'est dit aussi dans les Galates, insensé que vous êtes, vous avez commencé par la grâce et vous finissez par la loi. Donc, c'est pas la loi qui s'oppose à la grâce, c'est le fait de penser qu'en observant la loi, on va pouvoir se sauver ou s'améliorer. La grâce n'est pas non plus une récompense. Et le frère aîné pense que c'est une récompense. Il dit, mais celui-là, alors il ne le traite même plus de son frère, il dit, celui-là. Il a tout ce qu'il a fait, et tu fais une fête, tu tues le veau gras. Il pense que c'est une récompense. Et parfois, nous aussi, on pense que c'est une récompense. Quand on voit certaines personnes qui vivent d'une certaine manière, et on se dit, mais je ne sais pas comment ils font, il leur arrive jamais rien, pourtant. Mais on pense que, quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on pense que la grâce, c'est une récompense. Et en fait, la grâce, c'est une occasion de changer. Et donc, on a besoin de grâce pour pouvoir changer, mais ce n'est pas une récompense. Alors, si tout est grâce, on peut aussi se dire, pourquoi faire tant d'efforts ? Puisque de toute façon, il y a la grâce. Et en fait, quand on rentre dans la maison, c'est ce que j'ai constaté, et quand on comprend ce qui a été dit tout à l'heure, quand on comprend combien Dieu nous aime, on a envie de lui ressembler. On devient fils et fille, donc on veut être comme lui. Et donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas de la grâce une occasion de vivre n'importe comment. Et j'ai oublié encore une chose, c'est comment savoir si on est dans la maison ? et ou comment savoir si on a compris combien Dieu nous aime. Et je me suis dit, en fait, chaque fois que je suis dans la comparaison, c'est un signe que je ne suis pas dans la maison. Et c'est quand on se dit, ben moi j'ai fait tout ça, tout ce que je me suis donné comme peine, et puis les autres, puis je commence à comparer. Alors j'ai le petit gyrophare qui s'allume, qui dit, hé oh, t'es pas dans la maison là. Alors c'est un petit signe qu'il y en a bien d'autres encore, mais quand on est dans la comparaison, alors c'est pas pour dire, hé, t'es dehors. Non, c'est pour dire, arrête la comparaison. Arrête la comparaison, tu n'as pas besoin. Rentre dans la maison. Alors j'aimerais lire encore un texte un peu long, que j'ai copié cette fois-ci, mais parce qu'il était un peu moins long quand même. Dans Tite, chapitre 2, les versets 11 et 14. Car la grâce de Dieu... Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est lui-même donné en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Voilà donc encore un texte qui nous parle de grâce et de Jésus qui s'est donné lui-même. Alors un jour un ami, enfin il y a récemment un ami m'a demandé si j'étais prêt de parler de ma vision de l'agriculture et de notre mandat en tant que chrétien. C'était dans un cadre chrétien. Et c'était juste une période où je venais en gros de boucler 12 années d'essais, de choses que j'ai essayé pour travailler différemment, et j'avais l'impression que non, je recommence autrement. Dans la même période, j'ai reçu un email qui disait « La prière à faire si vous n'avez pas encore atteint votre chiffre d'affaires annuel ». Et alors je me suis dit « Mais là, j'en ai marre ». Ah, parce qu'on nous dit oui, il faut faire ça pour. Alors c'était exactement la même chose entre mon monde naturel dans l'agriculture où la société nous dit il faut faire ça pour protéger l'environnement et le monde spirituel où on nous dit ah mais il faut faire ça, ah tu n'es pas bien encore mais il faut proclamer le nom de Jésus, ah mais je le fais déjà, ah bon alors il faut te lever plus tôt le matin comme ça tu peux lire la Bible et prier, mais je le fais déjà. Et puis, mais il manque toujours encore le truc qu'il faut que tu fasses pour. Et c'est l'effet que m'a fait ce mail que j'ai reçu. Et alors, oui, j'en avais marre, je me dis. Mais parfois, on pose des jougs sur des gens, on leur dit, bah, il faut ça encore. Et pour finir, comme tu as tout fait, mais que ça ne marche toujours pas, bah, tu es le problème. Alors, tu n'as plus aucune chance, quoi. Donc, alors si je vous dis ça, c'est peut-être un peu une provocation, mais simplement, je me suis dit, en fait c'était après la période où j'ai lu le psaume 23 et tout ça, je me dis finalement tout ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est vraiment d'être avec le cœur du Père. Et alors dans l'agriculture, ok, on a un mandat de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Mais c'est pas si tu laboures ou si tu laboures pas, si tu fais ceci ou cela, qui est important, qui est déterminant. C'est, est-ce que tu es en communion avec le Père? Et je reprends les paroles parce que ça m'a touché avant là. C'est une autre manière de le dire. Est-ce que tu sais combien le Père t'aime? Et là, on peut se poser la question, mais Qu'est-ce que le Père pense de toi? Est-ce que tu le sais? Est-ce que quand tu réfléchis à ce que le Père pense de toi, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est déçu? Et je vous ai dit la dernière fois une phrase de Pierre Conga, hein, parce que il m'a beaucoup inspiré par rapport à ces choses-là. Il a dit: Dieu n'attend rien de toi, mais il espère tout. Et Dieu n'est jamais déçu de toi parce qu'il n'attend rien de toi, mais il espère tout. Et on peut l'appliquer à toutes nos relations. Je n'espère rien de mes enfants, mais j'espère tout. Quand on attend, après on est déçu et on va dans des reproches. Quand on espère, on encourage. C'est pas du tout pareil. Et quand on espère, on n'atteint jamais à la personne, mais on l'élève. Oui, donc après ma petite crise là, je me suis rendu compte que finalement, ce qui est important, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est d'être en communion avec lui. Et parfois, on peut être comme ce fils aîné. On applique des principes bibliques pour essayer de plaire à Dieu. Donc on fait tout ce qu'on a appris, mais on est encore dehors de la maison. Et on espère qu'en appliquant tout ça, ben, on va attirer le regard de Dieu sur nous. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Simplement quand le père dit: mais entre dans la maison. Et là, le fils aîné, on ne sait pas finalement s'il y allait. Mais en tout cas, dans cette démarche, parce que moi personnellement, j'ai été beaucoup comme ce fils aîné, j'ai dit: moi je rentre dans la maison. Alors un autre joug que je veux juste citer là, parce que ça fait partie aussi de ces discours qu'on entend parfois, c'est que c'est très important de garder la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Si vous possédez de la terre, c'est très important de le garder. Je suis en contact avec quelques couples d'agriculteurs qui sont vraiment en galère, dans le sens où ils sont fatigués, ils sont âgés, et ils croient qu'il faut garder la terre parce que c'est des enseignements qu'ils ont entendus, des paroles prophétiques qui ont été données, mais c'est difficile. Et ça peut vraiment être un joug, parce que, ok, de dire à un agriculteur: écoute, vraiment, c'est bien de garder la terre, mais c'est pas moi qui me lève à 5 heures le matin pour traire les vaches tous les jours de la semaine. Et donc là, je connais quelqu'un, enfin je suis en contact avec quelqu'un, pas dans la région, mais c'est son épouse qui est retraitée de l'enseignement, qui doit traire les vaches parce qu'il, lui, il peut plus, il a un problème de santé. Donc si je vous dis ça, c'est simplement quand on a des choses comme ça, il faut absolument ajouter l'intercession pour que ces gens qui vivent le quotidien puissent trouver des solutions. Alors on ne peut pas connaître tout le monde, mais simplement d'avoir cette notion de se dire: ok, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais c'est pas simple, donc on va accompagner d'intercession. Alors je vous encourage ce matin vraiment à prier pour les agriculteurs, qu'ils puissent continuer, qu'ils puissent, parce que certains sont vraiment dans des difficultés, et voilà, c'est pas toujours facile. Donc après ma petite crise, je me suis dit: en fait, moi je suis entré dans la maison et je suis entré dans le repos. Et le psaume 23 commence par le vers pâturage. Donc avant de s'exciter et de faire plein de choses, il me conduit dans les vers pâturages, il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Donc j'ai besoin d'être restauré avant de pouvoir faire des choses. Et donc, quand on entre dans la maison, ben, on commence à ressembler au Père. Alors j'ai vécu une petite histoire marrante, c'est que je suis allé faire le plein de ma camionnette un soir à 20h, et j'ai vu quelqu'un qui demandait à des gens qui faisaient le plein de remplir une jerrycan. Et je déteste ce genre de situation, parce que je sais qu'il faut être dans la compassion et en même temps j'ai pas envie. Et alors je me suis dit bon, c'est bon, le gars il lui en a donné, c'est bon, je peux venir. Et alors je vais me garer pour faire le plein. Et voilà que le gars il réplique. Je dis, mais tu viens d'avoir du gasoil. Non. Oui, mais j'ai encore des jerrycans. Alors. Alors j'ai dit, bon, je suis obligé de lui donner un peu, quoi. Alors j'ai mis 10 litres dans sa jerrycan. Je me dis, voilà, j'ai fait mon job. Et puis, il m'a raconté d'abord toute une histoire que sa femme est en train d'accoucher, enfin, va bientôt accoucher. Il faut qu'il déménage à Besançon et qu'il a dû emprunter une voiture qui roule à peine de son copain, mais qui n'a pas d'essence pour aller. Enfin, l'histoire, quoi. Alors peut-être c'est vrai, mais peut-être c'est pas vrai. Mais... Donc moi, je suis reparti, puis commençait à neiger. Et puis, en roulant, j'étais pas tranquille. Et le Seigneur me dit, mais ce gars, il va rester dans le froid, là, jusqu'à ce que sa voiture va être remplie. Qu'est-ce que tu peux faire? Et là, je me suis rappelé, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et moi, j'étais en train de ne pas entendre. Je me dis, mais Seigneur, je ne peux pas régler toute la misère du monde. Mais tu es capable de lui faire le plein. Et après, ça, c'est plus à toi de faire tout le reste si tu n'es pas capable. Mais faire le plein, tu es capable. Alors, je roule jusqu'au prochain rond-point. Je fais demi-tour. Je retourne à la station-service. Le gars était toujours là, en train d'attendre dans sa voiture. Alors, il neigeait. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez avancer la voiture? Je vais vous faire le plein. Alors, j'ai fait le plein. Bien sûr, elle était vide, la voiture. Et puis, je lui ai témoigné, et puis on parlait. Je lui ai dit, comment vous vous appelez? Il dit, Michel-Ange. Alors... Alors je me suis dit, entre c'est une blague ou je vais vous dire, le Seigneur a envoyé un ange pour me tester. Mais en tout cas, j'ai pu lui parler du Seigneur et puis j'ai fait le plein et puis il m'a remercié, je l'ai béni et puis on est parti, quoi. Et en fait, c'était pour dire, quand on commence à ressembler au Père, on fait des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais ça devient notre identité, puisqu'on est fils et filles. Il y a Anne Griffith qui utilise une autre image. Encore, elle dit, elle parle d'eau de toilette et eau de parfum. Alors, c'était la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, et j'espère, les hommes, là, les maris, que vous savez la différence, hein, entre eau de parfum et eau de toilette. Mais, c'est surtout plus cher, ouais. Mais... Et en fait, c'est une histoire de concentration. La fragrance est la même, mais dans l'eau de toilette, il y a plus d'eau que dans le parfum. Et après, il y a encore l'eau de Cologne qui a encore moins d'eau, enfin plus d'eau dedans. Mais alors, et je me dis, ben oui. Elle demande, est-ce que vous voulez être de l'eau de toilette ou de l'eau de parfum pour le Seigneur? Et je me dis, ben oui, finalement, c'est une histoire. Qu'une histoire de concentration. Et l'eau, en elle-même, l'eau, c'est pas mauvais. On ne parle pas ici de péché, hein, de désobéissance et tout ça. C'est juste de l'eau. Alors on peut se demander, qu'est-ce que dans ma vie est de l'eau qui dilue juste le parfum que je suis censé dégager? C'est rien de méchant, de l'eau, mais ça enlève du parfum. Alors, c'est une question, hein, que je vous lance. Une autre phrase que j'ai entendue récemment qui me plaît beaucoup, c'est que l'intimité avec le Père ne doit pas être notre but, mais notre source. Et c'est dans ce sens où on peut être ce frère aîné dehors et faire tout ce qu'il faut pour avoir accès au Père. Et là, on est en train de faire de la présence de Dieu notre but. C'est pas comme on a chanté ce matin, j'aspire après ta présence, mon âme soupire après l'Éternel. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est de penser faire les choses pour arriver à approcher de Dieu. Mais quand la présence de Dieu est notre source, alors les choses coulent. Je suis plus là en train de me dire, oui, bon, un bon chrétien, il devrait parler de Jésus, mais moi, j'aime pas ça, je suis pas un évangéliste. Mais en fait, quand on est auprès de la source, ben c'est pas il faut, c'est ah, ça coule, je sens que j'ai envie là de dire quelque chose. Et on passe par-dessus nos timidités et tout ça, mais ça coule, ça coule de source. Et même le fait de dire, de faire parfois des choses en pensant plaire à Dieu, sans être en relation, dans cette communion, ça peut nous emmener parfois dans des difficultés. Et là, je pense à quelque chose qu'on a discuté déjà avec Isabelle souvent, le fait de changer de travail. Alors Isabelle dit, je ne quitte pas une place sans savoir où je vais. Et moi, en tant que, homme de loi, je dis, mais Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Et en fait, là, je suis en plein dans le rôle de faire des choses qui ne sont pas en relation avec Dieu. En fait, partir sans savoir où on va, ce n'est pas un principe biblique. C'est Dieu qui dit « pars et je pars ». Ça, c'est le principe biblique. Et là, dans l'occurrence, Abraham ne savait pas où il allait. Mais d'abord, il entend « pars » et il part. Et parfois, j'entends des chrétiens aussi qui disent « Ah, moi, je vis par la foi, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. » Et Dieu pourvoira. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de partir ? Et on peut même aller en mission en Afrique et ne pas être dans l'obéissance. Alors, c'est peut-être choquant de dire ça comme ça. Mais on a parfois des clichés. Mais on arrive dans un temps où notre obéissance est vraiment primordiale. C'est pas faire des choses parce que ça a l'air bien, ou parce qu'un chrétien il fait des choses comme ça, ou parce que c'est le top du top si t'arrives à faire ça en tant que chrétien. Non, c'est être vraiment auprès de cette source, la présence de Dieu, et quand il dit, on fait. Et c'est, je sais pas si j'ai réussi à vous faire sentir cette différence entre faire les choses pour les faire ou parce qu'on est chrétien, et faire les choses parce qu'on est fils de Dieu. Et en fait, c'est là que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. C'est en fait ces hommes et ces femmes qui sont dans cette maison de l'Éternel et qui vivent comme le Père. Et Jésus lui-même dit, je ne peux rien faire de moi-même, je fais que ce que je vois faire au Père. Et de nous, il est dit pareil, vous ne pouvez rien faire sans moi, dit Jésus. Et donc, vraiment d'être dans cette dépendance et dans cette obéissance. Et alors, nous verrons de grandes choses. Alors, je veux arrêter là. Et simplement, j'aimerais encore prier. Merci Seigneur parce que tu as tout donné. Merci parce que tu n'es pas en colère contre nous. Merci parce qu'aujourd'hui aucun de nous n'a à se cacher devant toi. Mais tu nous accueilles chacun, quoi que nous ayons fait cette semaine, quoi que nous ayons fait ces dernières années. Merci Seigneur pour la puissance de la libération que tu accordes en Jésus-Christ quand nous nous approchons de toi. Merci Père pour cette grâce illimitée, cette grâce infinie. Merci parce que tu nous accueilles chacun. Et ce matin, j'aimerais vous encourager vraiment que si vous vous sentez indigne, si vous sentez que le Seigneur a des reproches à vous faire, Ne vous laissez pas accuser par Satan, par l'accusateur, mais venez auprès du Père, il vous accueille. Merci Seigneur parce que tu es vivant aujourd'hui, parce que nous pouvons vivre dans ta présence. Merci parce que tu changes nos vies et tu nous changes nous-mêmes aussi. Que ton nom soit béni Seigneur, que dans cette semaine nous puissions vraiment distribuer cette bonne odeur qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen.